Vous êtes tous ici des fiancés et je crois des amis. Je me permets donc de vous demander, en toute simplicité, ce que vous pensez des relations sexuelles entre fiancés. J'ai l'impression, Marie-Claire, que vous parleriez volontiers.
Pour moi, je raisonne peut-être en femme. Mais la formalité, ça compte un peu. Le jour où Philippe me prendra devant tout le monde, eh bien, je sentirai qu'il s'est vraiment engagé. Qu'il s'est mouillé pour moi. Que c'est sérieux. Qu'il s'est compromis officiellement. Alors, il me semble que je me donnerai sans arrière-pensée, sans crainte. Peut-être oubliez-vous trop souvent, vous les hommes, que nous, les femmes, nous aimons les gestes extérieurs, les preuves concrètes, visibles d'amour.
Et tout le monde est d'accord avec cette optique de Marie-Claire?
Pour moi, pour nous deux plutôt. Car Jocelyne pense comme moi, hein? Les problèmes, c'est pas si simple que ça. Je n'ignore pas qu'il n'y a pas de comparaison entre des relations entre promis, par exemple, et des relations entre jeunes qui se connaissent à peine et qui ne s'aiment que bien peu. Les risques ne se comparent pas. Mais qu'on le veuille ou non, même pour nous, fiancés, il y a des difficultés. L'éducation que nous avons reçue, certains diraient les principes, ne nous permet pas, comme ça, d'avoir des relations sans nous sentir quelque peu coupables. Et je serais profondément ennuyé que celle que j'aime le plus au monde puisse se donner à contre-cœur, par exemple, ou même avec quelques craintes et appréhensions, et que plus tard des remords.
Je dois dire, et vous comprendrez mieux Bernard, que mon père est mort il y a 2 ans et qu'il m'a fait promettre de garder ma virginité jusqu'au mariage.
Si je comprends bien, nous sommes ici en face d'un cas personnel. Surtout peu courant.
Pour nous, nous n'avons pas de relation sexuelle. Et nous essaierons. Nous essaierons d'attendre. Nous le disons sincèrement. Et nous essaierons. Oui. Pour nous, l'acte conjugal ne vient qu'en finale. Au terme. Comme une clé de voûte. Pour couronner, nous essaierons d'attendre. L'union des cœurs et des esprits. Alors, pour les étapes, et nous essaierons. Ce ne serait pas tenir notre contrat. Nous le disons sincèrement. Peut-être disons-nous cela parce que nous ne nous sentons pas encore assez prêts, pas assez couples. Et nous essaierons. Nous essaierons d'attendre. Nous le disons sincèrement. Et nous essaierons.
Patrick et Brigitte, vous avez peu parlé.
Moi, du moment qu'on s'aime et qu'on a confiance. Mais Brigitte, ma future, n'est peut-être pas tout à fait de mon avis.
Eh bien oui, nous avons eu des relations déjà. J'ai été déçue. Pas tellement au point de vue physique, on s'aimait, c'était formidable. Mais à la longue, j'ai eu l'impression qu'il n'y avait plus que ça qui comptait pour nous.
Hé, tu veux dire pour moi?
Et non, mon chéri. Moi aussi. On ne parlait plus entre nous. On ne recherchait qu'une chose. Je lui ai dit mes appréhensions. Et pour moi, il a décidé de stopper ses relations. Mais je sens qu'il en souffre.
Moi, je comprends qu'il en souffre. Quand on s'aime, quand on est fait l'un pour l'autre, quand on s'est choisi pour la vie, comment attendre? Mais c'est invivable de se voir tous les jours comme frères et sœurs.
Ce qui me fait désirer Philippe, c'est qu'il sait attendre. Ça me rassure sur l'avenir. Il saura résister à d'autres tentations. Je le sens fort. Hein, Philippe?
Je dois dire aussi que je n'ai pas accepté si vite d'agir ainsi. Je dois dire qu'au début, je craignais qu'il y ait chez toi une certaine indifférence pour tout ce qui est de la vie charnelle. Des tabous, quoi. Et je ne me serais pas marié si je n'avais pas senti que dans le fond, ton corps aussi me désirait profondément. Avec une autre fille que Luce, j'aurais peut-être brûlé les étapes.
Attention, maintenant vous devez retourner ce disque.
nous n'hésiterons pas davantage, comme nous allons le faire à présent, à étudier de plus près l'anatomie humaine.
Les seins sont l'une des expressions les plus émouvantes du mystère féminin. Ils sont essentiellement constitués par des glandes et un tissu graisseux.
Et pour schématiser dans une comparaison imparfaite, nous dirons que l'amour peut fonctionner grâce à deux moteurs très différents.
Il peut fonctionner, comme dans le dessin de l'eau, avec le moteur arrière. Il s'agit d'un moteur terriblement puissant, capable de s'éteindre aussi rapidement qu'il est né. Il brûle comme de l'étoupe. C'est un moteur à réaction, au coup fulgurant.
L'amour humain peut aussi fonctionner comme dans le dessin du milieu, entraîné par un moteur avant. C'est un moteur électrique, il est raisonnable et tenace.
Pour qu'on ait un amour authentique, il faut en fait, comme dans le dessin du bas, l'action concertée et unie, intégrée dirions-nous, des deux moteurs. Il est évident que l'amour sera d'autant plus voué à échouer que les deux moteurs seront en désaccord entre eux, comme dans le dessin du haut.
Chut, écoutez, les gros tracteurs Renault arrivent.
Dans ce cas, la plupart du temps, c'est le moteur de l'amour pulsion qui imposera sa loi. Il est absent. Mais à la longue, le moteur avant reprendra le dessus.
Par contre, il peut se faire que les moteurs viennent au secours l'un de l'autre.
Il est fréquent, par exemple, que le moteur avant arrive à mettre en marche, comme dans le dessin du bas, le moteur arrière qui ne s'est pas encore vraiment allumé. Le relance.
Il y a toujours dans un couple une possibilité de retour de flamme.
Neuropsychiatre et vous vous intéressez particulièrement aux tests mentaux dans lesquels vous avez une grande expérience. Cette méthode des tests, vous l'avez appliquée récemment au contrôle des états d'affaiblissement intellectuel chez les personnes âgées. Vous avez choisi effectivement une batterie de tests qui permet de reconnaître les divers secteurs de l'activité intellectuelle. L'attention, la mémoire immédiate, la mémoire différée, le jugement, le raisonnement enfin. Il s'agit d'une technique qui a l'immense avantage d'être objective, de permettre de chiffrer le degré de la détérioration mentale et d'apprécier des nuances qui seraient imperceptibles à l'observation clinique. Mais le profane que je suis se pose une question. Comment peut-on apprécier un affaiblissement intellectuel puisque la notion même d'affaiblissement suppose la référence à une mesure antérieure de l'intelligence et que dans l'immense majorité des cas, la personne devant laquelle on se trouve n'a jamais eu l'occasion de passer les tests de niveau intellectuel. Alors, comment résolvez-vous cette difficulté?
Oui. Il y a effectivement là un problème méthodologique. En fait, on contourne l'obstacle. On fait passer au sujet deux groupes de tests différents. D'une part, des tests sur lesquels l'âge influe relativement peu, et d'autre part, des tests qui sont très sensibles à la détérioration mentale, qu'elle soit sénile ou due à d'autres facteurs pathologiques. Et bien entendu, les réponses sont d'autant moins bonne que l'intériorisation mentale selon plus grande. Comme exemple, on donne le fameux test de raisonnement mathématique qui est test des dominos, qui était emprunté à l'armée du test domino des carrés. Vous voyez donc qu'il suffit de faire la différence entre, d'une part, les résultats obtenus au test et d'autre part, les résultats obtenus au test pour pouvoir estimer l'affaiblissement intellectuel. Je dis bien estimer et donc pas mesurer. Car il s'agit d'une estimation statistique et non pas d'une mesure. Ce sont des tests qui ont été étalonnés et validés sur des courbes de population statistique, des courbes de Gauss.
Allez donc chez votre concessionnaire Renault.